Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Kiddushin, page 54, Daf Nun Dalet. Bonne écoute et bon limoud.
On a tué la Gemara dit Amar Rav, Chazarnu al kol tzadim shel Rabbi Meir. Nous avons recherché partout où Rabbi Meir s'est exprimé au sujet de cette interdiction de Meila. Velo matinu hekdesh beshogeg en mitralel, bemezid mitralel. Nous n'avons trouvé nulle part que Rabbi Meir dit que le hekdesh utilisé involontairement ne quittera pas la possession du hekdesh. Et si cette personne le fait volontairement, cet objet quitte la possession du hekdesh. Ou mishnatenu, si c'est ainsi, comment interprétera-t-on notre mishnah? Pourquoi, si cette personne a utilisé l'objet du hekdesh involontairement comme objet de kiddushin, et kiddushin ne seront pas valables? C'est parce qu'il s'agit de bekotnot kehuna shelo balu, de tuniques destinées à servir les kohanim pour le service de Beit HaMikdash et qui ne se sont pas abîmées. Ho'il venitnu le'anot ba'em, et cela parce que la Torah a permis aux kohanim d'utiliser ces habits même si ce n'est pas pour le service du Beit HaMikdash. Le fi shelo nitna Torah le'malachei asheret, parce que la Torah n'a pas été donnée aux anges. En d'autres termes, la Torah n'a pas forcé les kohanim de se déshabiller immédiatement quand ils ont fini d'effectuer le service dans le Beit HaMikdash. Nous avons vu jusqu'à présent l'opinion de Rabbi Meir, qui dit que celui qui emploie par inadvertance un objet de Hekdesh comme objet de Kiddushin, les Kiddushin ne seront pas valables. La Gemara a donné deux interprétations à ce sujet. Rabbi Yochanan dit que la raison pour laquelle les Kiddushin ne seront pas valables, c'est parce que la femme, ou il se peut que même le mari, ne soit pas d'accord d'utiliser un objet de Hekdesh comme objet de Kiddushin ou pour toute autre transaction. S'il le savait donc, il n'aurait pas effectué cette transaction. C'est pour cela que cette transaction sera annulée et cet argent ou cet objet ne quittera pas la possession du Hekdesh. Rav est en désaccord avec cette interprétation. Selon lui, Rabbi Meir pense que dans tous les cas, cet objet quittera la possession du Hekdesh. Cependant, ici il s'agit d'un cas où la Torah a levé partiellement l'interdiction d'utiliser cet objet de Hekdesh pour autre chose que le Hekdesh. Par exemple, dans le cas d'habits destinés à effectuer le service dans le Beit HaMikdash, où la Torah n'a pas obligé les Kohanim de se déshabiller immédiatement lorsqu'ils ont fini d'effectuer le service dans le Beit HaMikdash. Puisque la Torah a levé partiellement cette interdiction d'utilisation un objet de Hekdesh, si ce n'est pas pour le Hekdesh, il n'y aura non plus pas de transgression de Meila si une personne l'utilise involontairement pour autre chose. Cet objet donc, dans ce cas, ne quittera pas la possession du Hekdesh. Et bien sûr, il n'y aura non plus pas de transgression d'interdiction de Meila. Cependant, Rabbi Yehuda pense que même si la Torah a levé partiellement l'interdiction d'utiliser cet objet, si ce n'est pas pour le Hekdesh, cette interdiction n'a été levée que là où la Torah l'a levée. Mais si une personne utilise cet objet pour autre chose que ce qui a été permis par la Torah, cet objet quittera la possession du Hekdesh et cette personne aura transgressé l'interdiction de Meila. C'est pourquoi, si cette personne donc a utilisé les habits du Kohen comme objet de Kiddushin, ces habits quitteront la possession du Hekdesh, les Kiddushin seront valables et cette personne aura transgressé l'interdiction de Meila. La Gemara dit là-dessus, Tashma, viens écoute une preuve d'une Braïta. La Braïta dit, Kotnot Kehuna Shebalouf, des tuniques destinées au service du Beit HaMikdash qui se sont abîmées, on ne peut plus les utiliser pour effectuer les services dans le Beit HaMikdash. Mo'alim Ba'em, celui qui les utilise pour autre chose que le Hekdesh, aura transgressé l'interdiction de Meila. Divrei Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Ma'ilav afilu lo balu, n'est-ce pas que de la Braïta nous pourrons déduire que même si ses habits ne se sont pas abîmés, celui qui les utilise aura transgressé l'interdiction de Meila. La Braïta aurait simplement dit le Chidush que même si ses habits ne sont plus aptes à faire le service du Beit HaMikdash, quand même celui qui les utilise aura transgressé l'interdiction de Meila. La Gemara répond là-dessus, lo balu dafka. Ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre la Braïta, mais c'est seulement s'ils se sont abîmés que si une personne les utilise, il aura transgressé l'interdiction de Meila. Mais si ses habits ne se sont pas abîmés, puisque la Torah a levé partiellement l'interdiction de les utiliser hors du Hekdesh, celui qui les utilise, même par exemple comme objet de Kiddushin, n'aura pas transgressé l'interdiction de Meila, et donc les Kiddushin ne seront pas valables. En Lagmara continue, Tashma, viens écoute une preuve d'une Braïta qui parle du Machatzita Shekel. C'est la pièce d'un demi-shekel que chaque personne est tenue d'offrir au Beit HaMikdash, quand le Beit HaMikdash existait. Cet argent était destiné à l'offrande des korbanot. À trois fois par an, les responsables du Hekdesh effectuaient un prélèvement dans cet argent qu'ils ont reçu pour l'offrande des korbanot. Cet argent servait donc à l'achat d'animaux et tout ce qu'ils avaient besoin pour l'offrande des korbanot. Le reste de cet argent est appelé Shiari Alishka, ce qui reste dans la salle du trésor. Cet argent était utilisé pour plusieurs choses, notamment pour la construction ou la réfection de la ville de Yerushalayim, comme nous le verrons par la suite. Maintenant, si une personne n'a pas pu amener cet argent à temps au Beit HaMikdash, donc avant Rosh Chodesh Nissan, il avait quand même la possibilité d'emmener cet argent par la suite. Il y avait plusieurs troncs destinés à cet effet dans le Beit HaMikdash. Celui qui devait de l'argent de cette année le déposer dans un tronc appelé les nouveaux Shkalim. Cet argent était versé dans la salle au trésor à l'occasion du prochain prélèvement. Si cette personne devait de l'argent d'année précédente, il ne le posait pas dans ce tronc, mais dans un autre tronc appelé vieux Shkalim. Cet argent était directement destiné à la réfection de la ville d'Yerushalayim, comme les restes des Shkalim à la fin de l'année. Alors la Braïta dit comme suit, Mo'alim Bechadetim. Celui qui utilise de l'argent déposé dans le tronc des nouveaux Shkalim aura transgressé l'interdiction de Meïla. Et cela parce que cet argent est destiné à l'offrande de Korbanot, comme nous l'avons expliqué. Ve'en Mo'alim Be'atikim. Par contre, celui qui utilise de l'argent du tronc appelé les vieux Shkalim, celui-ci n'a pas transgressé l'interdiction de Meïla. Et cela parce que cet argent n'est pas destiné à l'offrande de Korbanot, comme nous l'avons expliqué. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Mo'alim Av Be'atikim. Celui qui utilise de l'argent des troncs appelés vieux Shkalim aura aussi transgressé l'interdiction de Meïla. Shehaya Rabbi Meir Omer, parce qu'en fait, Rabbi Meir pense, Mo'alim Beshiare Alishka, celui qui utilise de l'argent qui reste dans la salle des Shkalim à la fin de l'année, a aussi transgressé l'interdiction de Meïla. Et cela, parce que Tosfot l'explique, des fois, quand ils étaient à court d'argent, les responsables du Hekdesh utilisaient même cet argent, donc des restes de l'année dernière, pour l'offrande de Korbanot. Alors la question se pose, Bahamaï, pourquoi Nema, on a qu'à dire Ho'il Venitnu Lehanot, puisque la Torah a permis partiellement l'utilisation de cet argent pour des choses qui ne sont pas du Hekdesh, les fiches non itna Torah le Malaché Hasharet, parce que la Torah n'a pas été donnée aux anges. C'est-à-dire, la Gemara précise, Deha Chomat Ha'ir Umigdelotéha, Mishiare Alishkaatu, parce que voici la construction ou la réfection des murailles de la ville ou des tours de la ville de Yerushalayim se font à partir de cet argent justement qui reste dans la salle des Shkalim à la fin de l'année, d'Etnam, parce qu'il a été enseigné une Mishnah dans Shkalim Vav, Chomat Ha'ir Umigdelotéha V'chol Tzorkahir, la construction ou la réfection des murailles de la ville et des tours de la ville de Yerushalayim et tous les autres besoins de la ville de Yerushalayim sont pourvus par les restes de l'argent qui se trouve dans la salle au trésor. Donc à la fin de l'année, il est évident qu'il n'y a pas eu d'interdiction de s'asseoir ou de se reposer à l'ombre des murailles de la ville d'Yerushalayim ou de s'asseoir sur l'une de ces pierres. Et cela bien que ces pierres ont été achetées avec de l'argent du Hekdesh. Forcément donc nous dirons que la Torah a permis partiellement l'utilisation de cet argent en dehors des besoins du Hekdesh. Et quand même nous voyons que selon l'opinion de Rabbi Meir, celui qui utilise de l'argent qui reste à la fin de l'année, a quand même transgressé l'interdiction de Meïla. Nous voyons donc bien que même si la Torah a levé partiellement l'interdiction d'utilisation d'un objet de Hekdesh, si une personne utilise cet objet pour autre chose, il a transgressé l'interdiction de Meïla, contrairement à ce que Rav nous a dit plus haut. L'Agma répond, Lotema Rabbi Meir. Il ne faut pas lire ici dans cette braïta que c'est Rabbi Meir qui dit que celui qui utilise de cet argent des vieux Shkalim a transgressé l'interdiction de Meïla. Et là, Emma Rabbi Yehuda. Il faudra donc corriger la Braïta et dire que c'est Rabbi Yehuda qui a dit que celui qui utilise de l'argent des vieux Shkalim a transgressé l'interdiction de Meïla. Parce qu'effectivement, selon lui, même si la Torah a levé partiellement l'interdiction de Meïla d'utilisation de cet argent de Hekdesh, si une personne l'utilise pour autre chose, celui-ci a transgressé l'interdiction de Meïla. Mais effectivement, selon l'opinion de Rabbi Meir, il n'y aura pas d'interdiction de Meïla avec les vieux Shkalim. Tashma. La Gemara continue, viens, écoute une preuve d'une braïta de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta Amar Rabbi Ishmael Barabi Itrak, Avnei Yerushalayim Shenashru, des pierres d'Yerushalayim qui seraient tombées de la muraille, Mo'alim Bahem, celui qui l'utilise, a transgressé l'interdiction de Meïla, d'Ivri Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Nous voyons donc bien que même si la Torah a partiellement permis l'utilisation des pierres d'Yerushalayim quand elles sont dans la muraille, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire une personne peut s'asseoir à l'ombre de la muraille, quand même, si une personne en fait une autre utilisation, il a transgressé l'interdiction de Meïla. Contrairement à ce que Rava dit, l'Agma répond, l'Otema Rabbi Meir ne dit pas que c'est Rabbi Meir l'auteur de cette Braïta, et là Emma Rabbi Uda, mais dit que c'est Rabbi Uda qui est l'auteur de cette Braïta, et qui dit que celui qui utilise les pierres de la ville d'Yerushalayim après qu'elles sont tombées de la muraille, cette personne a transgressé l'interdiction de Meïla. L'Agma demande, et Rabbi Uda, si tu dis que l'auteur de cette braïta c'est Rabbi Uda, Yerushalayim Mimekacha, est-ce que selon son opinion, la ville de Yerushalayim est considérée comme appartenant au Hekdesh? Et par conséquent, celui qui utilise des pierres de la muraille a transgressé l'interdiction de Meïla. Ve'atnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah dans le Darim Daf Yud Amud Bet, qui parle de la manière dont un vœu peut être formulé. En effet, l'une des manières de formuler un vœu, c'est de calquer une interdiction qui existe et qui a été créée par un homme sur un autre objet, en disant par exemple que ce morceau de viande soit interdit pour moi comme un corban. L'interdiction d'utiliser le corban est une interdiction qui a été créée par l'homme. Alors la Mishnah donne d'autres exemples. Celui qui dit Ke'imra, que cet objet me soit interdit comme l'agneau destiné à l'offrande du corban tamid, ou bien Kedirim, ou bien comme les entrepôts ou les enclos où sont entreposés le bois ou les animaux pour l'offrande des corbanotes, ou bien Ke'etim, bien celui qui dit que cet objet me soit interdit comme les bois destinés au Mizbeach, ou bien Keishim, que cet objet me soit interdit comme le feu du Mizbeach, donc comme les corbanotes qui brûlent sur ce feu, ou bien celui qui dit Keichal, que cet objet me soit interdit comme le Beit HaMikdash lui-même, ou bien celui qui dit Kemizbeach, que cet objet me soit interdit comme le Mizbeach. C'est une interdiction aussi qui a été créée par l'homme. Ou bien celui qui dit Keirushalayim, que cet objet me soit interdit comme la ville de Yerushalayim. Dans ces cas, le vœu prendra effet et cet objet sera interdit. Rabbi Uda Omer, Kol Haomer Yerushalayim lo amaklum. Celui qui prend Yerushalayim comme modèle d'interdiction, celui-ci n'a rien dit. Le vœu donc ne prendra pas effet. Agmara comprend que la raison pour laquelle, selon l'avis de Rabbi Uda, celui qui prend comme modèle la ville de Yerushalayim, le vœu ne prendra pas effet, c'est parce que l'opinion de Rabbi Uda est que la ville de Yerushalayim ne fait pas partie du patrimoine du Hekdesh. Si c'est ainsi, nous ne pouvons pas corriger la Braïta que nous avons vue précédemment et de dire que c'est Rabbi Uda qui en est l'auteur, parce que selon lui, celui qui utilise les pierres de Yerushalayim qui seraient tombées de la muraille, cette personne n'aura pas transgressé l'interdiction de Meïla. Vechitema, et si tu veux me répondre que l'interprétation de la Mishnah dans Nedarim est différente, Mishum de Loyarmar qui Yerushalayim, la raison pour laquelle son vœu ne prendra pas effet, c'est parce qu'il s'est mal exprimé. Il n'a pas employé le kaf de comparaison. Elle aurait simplement dit que je m'engage à avoir sur cet objet l'interdiction de Yerushalayim. Ce qui ne veut rien dire. En d'autres termes, ce que Rabbi Uda aurait voulu dire, c'est simplement pour insister que si cette personne veut s'exprimer de cette manière, donc de calquer une interdiction, il devra employer impérativement le kaf de comparaison pour que son vœu prenne effet. Alakma réfute, elle dit que c'est impossible d'interpréter l'opinion de Rabbi Uda de cette manière, parce que Vatania, voici qu'il a été enseigné clairement dans une braïta à Rabbi Uda Omer, Kol Haomer ki Yerushalayim lo amaklum, tout celui qui prend Yerushalayim comme modèle, et qu'il dit donc que cet objet me soit interdit comme la ville de Yerushalayim, il n'a rien dit, son vœu ne prendra pas effet, ad sheyadur bedavar hakarev Yerushalayim, jusqu'à ce qu'il prenne comme modèle un korban offert dans la ville de Yerushalayim. Mais la ville d'Yerushalayim elle-même ne fait pas partie du patrimoine du Hekdesh. Finalement donc l'auteur de la braïta précédente ne peut pas être Rabbi Uda. Nous tournons la page à Daf Nundalet Amud Bet. L'Agma répond.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
L'auteur de la braïta précédente ne peut pas être Rabbi Uda. Nous tournons la page à Daf Nundalet Amud Bet. L'Agma répond, toujours pourrais-je te dire que l'auteur de la braïta précédente, c'est effectivement Rabbi Uda. Cependant, très Tanaï Ninhu Valibad Rabbi Uda. Il y a une discussion entre deux Tanaïm concernant l'opinion de Rabbi Uda. L'un des deux Tanaïm pense que l'opinion de Rabbi Uda est que la ville d'Yerushalayim ne fait pas partie du patrimoine du Hekdesh, celui qui utilise donc des pierres de la ville d'Yerushalayim après qu'il soit tombé de la muraille. Celui-ci n'a pas transgressé l'interdiction de Meïla, alors que l'autre Tana pense que selon l'avis de Rabbi Uda, la ville de Yerushalayim fait partie du patrimoine du Hekdesh. Celui qui utilise donc une des pierres de la muraille après qu'elle soit tombée, aura transgressé l'interdiction de Meïla. Amar Ula Mishmeh Debar Pada. Omer Aya Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, donc c'est là son opinion, Hekdesh Bemezid Mitralel, un objet de Hekdesh, s'il est utilisé volontairement pour une utilisation autre que le Hekdesh, celui-ci quitte la possession du Hekdesh et la personne a donc transgressé l'interdiction de Meila. Cependant, parce qu'il l'a fait volontairement, il n'aura pas de korban à offrir. Beshogeg et Mitralel. Mais s'il utilise cet objet de Hekdesh involontairement, celui-ci n'a pas quitté la possession du Hekdesh. Velo Amru Beshogeg Mitralel. Et nous n'avons pas dit que celui qui utilise un objet de Hekdesh par inadvertance, celui-ci est considéré comme ayant été profané. Et là, l'ignan korban bilvad, ce n'est que concernant l'offrande du korban. C'est-à-dire, même si nous ne disons que celui qui utilise par inadvertance un objet de Hekdesh, celui-ci n'a pas quitté la possession du Hekdesh. Cependant, la Torah a imposé sur lui l'offrande du Korban Meila. La Gemara demande, Vechi Me'achar Den Mitralel, si cet objet n'a pas quitté la possession du Hekdesh Korban Bema Michayev, comment se fait-il qu'ils doivent offrir un Korban pour cette utilisation, puisque finalement cet objet n'a pas été perdu et il revient dans son intégralité au Hekdesh. Et là, c'est pour cela que la Gemara dit « Ki ata Rabin parish mishme de Barpada » Quand Rabin est venu d'Eretz Israël, il a expliqué son opinion au nom de Barpada. « Omer ya Rabbi Meir » Rabbi Meir avait l'habitude de dire « Hekdesh bemezid mitralel » Celui qui utilise un objet du Hekdesh volontairement pour autre chose que le Hekdesh, celui-ci quitte la possession du Hekdesh. « Beshogeg il mitralel » Mais s'il le fait par inadvertance, cet objet n'a pas quitté la possession du Hekdesh. « Velo amru beshogeg mitralel » Et nous ne disons pas que si une personne a utilisé un objet de Hekdesh par inadvertance, celui-ci est considéré profané. Et là, l'ignan achila bilvad, c'est seulement s'il a été consommé ou utilisé. C'est-à-dire, il est vrai que la Torah exige l'offrande d'un korban pour celui qui utilise par inadvertance un objet de Hekdesh, mais ce n'est que dans le cas où cet objet a été consommé ou utilisé d'une manière où cette personne a tiré profit directement de cet objet du Hekdesh. Par exemple, s'il a fait brûler de l'huile pour s'éclairer, ou bien même s'il a pris des pièces d'argent pour les utiliser comme poids. Mais finalement, il a tiré directement profit de cet objet du Hekdesh. Par contre, si son utilisation du Hekdesh, c'est simplement pour l'utiliser comme objet d'échange, comme par exemple de l'argent pour acheter un objet, puisque, comme nous l'avons expliqué, selon l'avis de Rabbi Yochanan, cette personne, s'il avait su qu'il s'agissait du Hekdesh, n'aurait jamais voulu faire cette transaction. Finalement, la transaction a été annulée et cet objet n'a pas quitté la possession du Hekdesh. Par conséquent, donc, dans ce cas, il n'y aura pas de transgression de Meila. En d'autres termes, donc, Barpada se range à l'opinion de Rabbi Yochanan. Amar Rav Nachman Amar Adaba Rahava. Halacha ki Rabbi Meir be Maaser. L'alacha est comme Rabbi Meir concernant le Maaser Sheni. C'est-à-dire, nous avons vu dans la Mishnah que même celui qui utilise des fruits de Maaser Sheni comme objet de Kiddushin, soit s'il le fait involontairement, soit s'il le fait volontairement, les kiddushin ne seront pas valables. Et cela, comme nous l'avons expliqué, que les fruits ou l'argent de Maaser Sheni est considéré comme étant la possession d'Akadosh Baruch Hu et non pas de son propriétaire. Il n'a donc pas la possibilité de l'utiliser pour autre chose que la consommation dans la ville de Yerushalayim. Toute transaction faite avec cet argent sera annulée. Et cela, Ho'il Vesatam Lantana Kevate. Et cela parce que l'auteur de la Mishnah a enseigné une Mishnah sans auteur qui concorde avec l'opinion de Rabbi Meir pour nous montrer donc que l'alakha est comme lui. L'alakha que Rabbi Yuda be'ekdesh, l'alakha est fixée comme Rabbi Yuda concernant les objets du Hekdesh. Selon lui, nous avons vu que celui qui emploie de l'argent du Hekdesh pour faire une transaction, s'il le fait volontairement, la transaction n'aura pas lieu et cet argent n'a pas quitté la possession du Hekdesh. Par contre, s'il le fait par inadvertance, cet argent a quitté la possession du Hekdesh, il y a transgression de Meila. Et cela, Ho'il Vesatam Lan Tana Kevate. Et cela parce que l'auteur de la Mishnah a enseigné une Mishnah sans auteur qui concorde avec l'opinion de Rabbi Yehuda concernant le Hekdesh. Alors la Gemara précise, Ki Rabbi Yehuda Bemaaser Mahi, où a-t-on vu que l'auteur de la Mishnah a enseigné une Mishnah sans auteur qui concorde avec l'opinion de Rabbi Meir concernant le Maaser Sheni? La Gemara répond, Detnan. Nous l'avons vu dans une Mishnah dans Maaser Sheni Perekhe concernant le Kerem Revaï. Pendant les trois premières années qui suivent la plantation d'un arbre ou d'un vignoble, les fruits qui poussent sur celui-ci sont interdits. C'est ce que nous appelons Orla. La quatrième année, ces fruits doivent être montés pourraient être consommés dans la ville d'Yerushalayim ou ils peuvent être rachetés sur place et l'argent sera dépensé pour de la nourriture dans la ville d'Yerushalayim. C'est ce que nous appelons Kerem Revaï. Alors la Mishnah dit, Kerem Revaï, un vignoble, la quatrième année qui suit sa plantation, donc dont la production doit être consommée dans la ville d'Yerushalayim ou rachetée et cet argent doit être dépensé pour de la nourriture dans la ville d'Yerushalayim, Bet Shammai Omrim En Lo Chomesh. Celui qui le rachète n'aura pas besoin d'ajouter un cinquième, comme doit le faire le propriétaire qui rachète son maaser sheni. Ve'en lo biur, et ne devra pas aussi le faire disparaître. C'est-à-dire, la Torah enseigne qu'à la fin de la troisième et de la sixième année, toute personne doit faire disparaître le maaser qui se trouve chez lui à la maison. C'est en fait à la fête de Pessach de la quatrième et de la septième année de la Shemitah, une personne doit faire disparaître donc tout prélèvement qui se trouve dans sa maison. Il devra donner toute la trauma qui s'y trouve et tout le maaser qui s'y trouve. Cependant, s'il a chez lui de l'argent du Kerem Revaï, il n'aura pas besoin de le faire disparaître. Ou Bet Hillel Omrim, Yeshlo. Le Kerem Revaï, la production donc de la quatrième année, est concernée par ce cinquième. C'est-à-dire, si le propriétaire rachète ce Kerem Revaï, celui-ci devra ajouter un cinquième. Et à la fin de la troisième et de la sixième année, le propriétaire donc devra se débarrasser des fruits ou de cet argent du Kerem Revaï. Autre discussion, Bet Shammai Omrim, Yeshlo Peret ve Yeshlo Olelot. La production de la quatrième année est concernée par la mitzvah de Peret et de Olelot. C'est-à-dire, pendant les vendanges, les grains de raisin qui tombent par terre n'ont pas le droit d'être amassés par le propriétaire. C'est ce qu'on appelle ceci, sont destinés aux pauvres. Aussi, les grappes de raisin qui ont poussé sans grappillon, c'est-à-dire c'est des simples grains qui sont attachés directement à la tige centrale, c'est ce que la Mishnah appelle Olelot, sont destinés aux pauvres. Le propriétaire, donc, n'aura pas le droit de le ramasser. Alors, ce que Bet Shammai nous dit, c'est que la production de la quatrième année est concernée aussi par ces mitzvot. Le propriétaire, donc, n'aura pas le droit de ramasser les grains de raisin qui tombent par terre et ni de récolter les grappes qui ont poussé sans grappillon. Ou Bet Hillel Omrim, Kulol Agat, toute la production de la quatrième année peut être pressée dans le pressoir. En d'autres termes, cette production n'est pas concernée par cette mitzvah de Peret et de Olelot. Alors la Gemara demande, Maïtama de Bet Hillel, quelle est la raison de Bet Hillel? Pourquoi, selon lui, la production de la quatrième année est concernée par le cinquième que le propriétaire doit ajouter quand il rachète cette production? Alors la Gemara répond, Gamre Kodesh Kodesh Mimaaser. Bet Hillel l'apprend d'une Gzera Shava à partir du terme de Kodesh qui a été employé par la Torah à propos de la production de la quatrième année et à propos du Maaser Sheni. Ainsi donc, Bet Hillel compare les lois de la production de la quatrième année au Maaser Sheni. Ma Maaser Yeshlo Chomesh Yeshlo Biur, de la même manière que concernant le Maaser Sheni, si le propriétaire le rachète, il doit ajouter un cinquième et à la fin de la troisième et de la sixième année, il doit le faire disparaître de la maison. Av Kerem Revaï Yeshlo Chomesh Yeshlo Biur, la production de la quatrième année aussi, si son propriétaire la rachète, il devra ajouter un cinquième, elle devra faire disparaître cette production à la fin de la troisième et de la sixième année. Ou Bet Shammai, lo gamre kodesh kodesh mimaser. Par contre, Bet Shammai ne font pas cette Gzera Shava à partir du terme de kodesh et donc ne compare pas les lois de la production de la quatrième année au maaser sheni. La Gemara s'interroge, ou Bet Hillel omrim ke maaser. Bet Hillel finalement compare la production de la quatrième année au maaser sheni. Ke man tzvira lehu. Comme qui pense-t-il? Que Rabbi Houda, ils suivent l'opinion de Rabbi Houda, qui dit que le Maaser Sheni est considéré comme la propriété de son propriétaire, Amai Kulo Lagat. Pourquoi celui qui récolte ou qui vendange la production de la quatrième année, il peut mettre toute la production dans le pressoir? En d'autres termes, cette production n'est pas concernée par la mitzvah de Peret et de Olelot. Amar Maaser Mamon Ediotu, voici que son opinion est que le Maaser Sheni est considéré comme étant la propriété de son propriétaire. Il n'y a donc pas de raison de dispenser cette production de la mitzvah de Peret et de Olelot. Et la lave, n'est-ce pas donc que nous dirons que Rabbi Meir, que Bet Hillel suive l'opinion de Rabbi Meir, selon lequel le Maaser Sheni est considéré comme la propriété d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est donc pas concerné par cette mitzvah de Peret et de Olelot. Nous dirons donc aussi que la production du le de la quatrième année, n'est pas concerné par cette mitzvah de Peret et de Olelot. Nous voyons donc une Mishnah dans Maaser Sheni, donc, qui nous enseigne que l'opinion de Beit Hillel dont la halakha est comme eux, est comme l'opinion de Rabbi Meir. Que le Maaser Sheni est considéré comme étant la propriété d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est destiné à autre chose qu'à la nourriture. Que Rabbi Yehuda Be'ekdesh Mahi, où voyons-nous une Mishnah qui suit l'opinion de Rabbi Yehuda concernant les objets du Hekdesh? Elle m'a répondu, Etnan. C'est ce que nous avons enseigné dans une Mishnah dans Meila Davka Falef. La Mishnah dit, Shilach Beyad Pikeach, si une personne envoie par inadvertance de l'argent du Hekdesh entre les mains d'une personne consciente pour acheter quelque chose chez l'épicier, Venizkar Achelogia Etzelchenvani, et il s'est rappelé qu'il s'agissait de l'argent du Hekdesh avant que son émissaire arrive chez l'épicier. Chenvani Ma'al Lekcheotzi, c'est l'épicier qui a transgressé l'interdiction de Meila lorsqu'il dépensera cet argent. Il s'agit d'un cas, comme la Gemara le précise là-bas, où l'émissaire était aussi au courant qu'il s'agissait de l'argent du Hekdesh. C'est pour cela donc que ce n'est que l'épicier qui a transgressé cette interdiction, et cela parce qu'il n'était pas au courant qu'il s'agissait de l'argent du Hekdesh, et cela seulement quand il dépensera cet argent. Finalement, nous voyons donc que lorsqu'une personne utilise de l'argent du Hekdesh volontairement pour acheter un objet, celui-ci n'a pas transgressé l'interdiction de Meïla, et cet objet n'a pas quitté la possession du Hekdesh. Et c'est pour cela que ce n'est que quand l'épicier utilise cet argent qu'il aura transgressé cette interdiction de Meïla. C'est à ce moment-là que cet argent quitte la possession du Hekdesh. Nous voyons donc que cette Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Puisqu'elle a été enseignée sans auteur, nous pouvons comprendre que la halakha est comme Rabbi Yehuda concernant le Hekdesh. La Gemara demande au Rabbi Yehuda Maaser Milotnan, n'a-t-on pas enseigné une Mishnah qui suit l'opinion de Rabbi Meir concernant le Maaser Sheni? Selon lui, donc, les fruits de Maaser Sheni sont considérés comme étant la propriété du propriétaire. Ve'atnan, voici qu'il a été enseigné dans une Mishnah dans Maaser Sheni Perek Dalet. Hapode Maaser Sheni Shelo, Mosif Alav Chamishito. Celui qui rachète son propre Maaser Sheni, il devra ajouter un cinquième du prix de ses fruits, ben Michelo, ben Shenitano Bematana, soit s'il s'agit des fruits de sa production, donc de la production de ses champs, soit s'il s'agit de fruits de Maaser Sheni qui lui ont été donnés en cadeau. Alors la Gemara demande, Mané, quel est l'auteur de cette Mishnah? Il est ma Rabbi Meir. Ici, tu dis que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir, Mimatsi Yaivle Bematana. Est-ce qu'une personne peut donner du Maaser Sheni en cadeau à quelqu'un d'autre? Ve'amar Maaser Mamon Gavahu, voici que l'opinion de Rabbi Meir est que le Maaser Sheni est considéré comme étant la possession d'Akadosh Baruch Hu. Il n'est destiné qu'à la nourriture et pas à autre chose. Finalement, une personne donc ne peut pas donner ce Maaser Sheni en cadeau à quelqu'un d'autre. Finalement, donc, il n'y a pas de raison que cette personne qui a reçu ce Maaser Sheni en cadeau doive ajouter un cinquième dessus. Et la lave, n'est-ce pas donc Rabbi Yehuda, que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Nous voyons donc ici une Mishnah enseignée sans auteur qui suit l'opinion de Rabbi Yehuda concernant le Maaser Sheni. La Gemara répond, lo. Ce n'est pas vrai. Le Olam, Rabbi Meir, toujours pourrais-je te dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et ici, dans cette Mishnah, de quel cas s'agit-il? Que Gon, Diahiv, Niale, Betivle. Il s'agit d'un cas où cette personne a donné en cadeau toute la production de ce champ avant d'avoir prélevé le Maaser Sheni. Vekasavar, et l'auteur de cette Mishnah pense, Matanot, Shelo Urmu, Kimi, Shelo Urmu Damiam. Ce qui est destiné à être prélevé avant que le prélèvement soit effectué n'est pas considéré comme si le prélèvement a déjà eu lieu. C'est-à-dire, nous ne dirons pas que si cette personne a donné toute sa production en cadeau à quelqu'un d'autre avant que le Maaser Sheni a été prélevé, que ce qui est destiné à être prélevé en tant que Maaser Sheni ne peut pas être donné en cadeau. Par conséquent donc, la personne qui a reçu ce cadeau devra ajouter un cinquième lorsqu'il rachètera ce Maaser Sheni. La Gemara continue. Tashma, bien écoute une preuve d'une Mishnah dans Maaser Sheni Perekhe. La Mishnah dit, Hapode Neta Revaishelo, celui qui rachète la production de la quatrième année, Mosif Alav Chamishito, il devra ajouter un cinquième, Ben Michelo, soit s'il s'agit d'une production lui appartenant, Ben Shenitano Bematana, soit s'il s'agit de fruits, donc de production de la quatrième année qui lui ont été donnés en cadeau. Alors la Gemara s'interroge, Mané, quel est l'auteur de cette Mishnah? Il est ma Rabbi Meir. Si tu vas me dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir, Mimati Yaivle, est-ce qu'une personne peut donner donc la production de la quatrième année à une autre personne? Ve'agamre Kodesh Kodesh Mimaser. Alors que voici, nous avons vu plus haut qu'on apprend du Gzera Shava à partir du terme de Kodesh et nous comparons les lois de la production de la quatrième année au Maaser Sheni. Et donc, comme nous l'avons expliqué, si le Maaser Sheni est considéré comme étant la propriété d'Akadosh Baruch Hu et ne peut pas être donnée en cadeau, la production de la quatrième année aussi ne peut pas être donnée en cadeau. Finalement, comment peut-on trouver le cas de quelqu'un qui rachète la production de la quatrième année alors qu'il a reçu celle-ci en cadeau? Et la lave, n'est-ce pas donc Rabbi Houda, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Houda. Nous voyons ici une Mishnah enseignée sans auteur qui suit l'opinion de Rabbi Houda. On aurait dû donc fixer la halakha comme Rabbi Houda. Concernant le Maaser Sheni, Ragma répond, le Olam, Rabbi Meir. Toujours pourrais-je te dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ve'achav ema eskinan, ici, de quel cas s'agit-il? Kegon de'ahiv ksheus madar. Il s'agit d'un cas où cette personne a donné la production de la quatrième année alors que les fruits étaient de simples bourgeons. Ou de l'autre Rabbi aussi, et cette Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi aussi d'Amar, qui dit que smada, des bourgeons, des arbres qui poussent pendant les troisième années suivant leur plantation, assour, sont interdits, mipnei shupri, parce que déjà à ce moment-là, ces bourgeons sont considérés comme étant des fruits. L'auteur de cette Mishnah ne pense pas ainsi. Par conséquent, donc, le propriétaire de ces bourgeons peut donner toute sa production à quelqu'un d'autre, parce que celle-ci n'est pas encore concernée par les lois relatives à la production de la quatrième année. La Gemara continue. Tashma, viens écoute une preuve d'une Mishnah dans Maaser Sheni, Perek Dalet. Il s'agit de celui qui vend des fruits de Maaser Sheni. En effet, ces fruits peuvent être vendus de manière à ce que la Kdusha de Maaser Sheni soit transférée sur la contre-valeur de ces fruits. L'acheteur pourra donc consommer ces fruits n'importe où, et le vendeur devra utiliser cet argent comme de l'argent de Maaser Sheni, qui ne pourra être dépensé que pour de la nourriture dans la ville de Yerushalayim. Alors la Mishnah dit, « Mashar hemenu Maaser besela. » Si une personne a tiré des fruits de Maaser Sheni, cela quand leur valeur était d'un sela. Une fois qu'il les a tirés, il en a pris possession. Velo hispik livdoto, il n'a pas eu le temps de les racheter, donc de payer la contre-valeur de ses fruits, ad she'amad bishtaim, jusqu'à ce que la valeur de ses fruits a augmenté, et ils valent maintenant deux sela. Alors la Mishnah dit, noten sela, l'acheteur devra donner au vendeur un sela, qui sera considéré comme de l'argent de Maaser Sheni, ou mistaker sela, et l'acheteur a gagné un sela, c'est-à-dire, il devra prendre un sela supplémentaire pour terminer de racheter ce Maaser Sheni, parce que l'akdusha de ce Maaser Sheni ne sera transféré que lorsque l'argent a été payé. Cependant, il n'aura pas besoin de donner ce sela au vendeur, il pourra le garder pour lui-même, et lui-même utilisera cet argent comme de l'argent du Maaser Sheni qui sera dépensé pour de la nourriture dans la ville de Yerushalayim. Ou Maaser Sheni Shelo. Et cela parce que le Maaser Sheni est considéré comme appartenant à l'acheteur, et cela dès qu'il a fait l'acte d'acquisition en le tirant. C'est-à-dire, la transaction entre l'acheteur et le vendeur se termine lorsque l'acheteur a tiré les fruits, et cela même avant de payer la marchandise. Cependant, le rachat du Maaser Sheni proprement dit, c'est-à-dire le transfert de l'akdusha du Maaser Sheni sur de l'argent, ne s'effectue que lorsque cet argent est mis de côté. C'est pour cela donc que le vendeur recevra un sela qui sera dépensé comme de l'argent de Maaser Sheni, et l'acheteur devra mettre un sela supplémentaire de côté qu'il utilisera lui-même comme de l'argent de Maaser Sheni. La Gemara demande, Mané, quel est l'auteur de cette Mishnah? Il est ma Rabbi Meir, si tu veux me dire que c'est Rabbi Meir qui est l'auteur de cette Mishnah, Amay Mistaker Besela. Pourquoi est-ce que l'acheteur a gagné un sela qu'il utilisera lui-même comme de l'argent de Maaser Sheni? Alors que concernant le Hekdesh, Venatan et Akesev, Vekamlo Amarachmana, le pasouk dit dans Vaikra Kavzaim, et il donnera l'argent au responsable du Hekdesh, et à ce moment-là, l'objet du Hekdesh sera acquis à l'acheteur. Nous voyons donc dans ce pasouk, concernant les objets du Hekdesh, que ce n'est que lorsque l'acheteur aura payé la contre-valeur de l'objet, que la Kdusha de cet objet sera transférée sur cet argent, et l'objet appartiendra à l'acheteur. Si nous disons que le Maaser Sheni est considéré comme appartenant à Kadosh Baruch Hu et non pas à son propriétaire, on devrait dire aussi que le propriétaire ne peut pas vendre le Maaser Sheni, et ce n'est que lorsque l'argent a été mis de côté ou lorsque l'acheteur aura payé l'argent au vendeur que la Kdusha du Maaser Sheni sera transférée sur cet argent et que la transaction aura lieu. Finalement donc, l'acheteur aurait dû payer les deux slaïm au vendeur. Et la lave, n'est-ce pas donc que l'auteur de cette Mishnah, Rabbi Houda, c'est Rabbi Houda. Nous voyons donc une Mishnah enseignée sans auteur qui suit l'opinion de Rabbi Yehuda concernant le Maaser Sheni, qui dit que le Maaser Sheni est considéré comme appartenant à son propriétaire. La Gemara répond, le Olam Rabbi Yehuda. Effectivement, toujours pourrais-je dire que l'auteur de cette Mishnah, effectivement, c'est Rabbi Yehuda. Cependant, la raison pour laquelle nous fixons la halakha comme Rabbi Meir, c'est parce que Vehacha Chadstama, nous n'avons qu'une seule Mishnah sans auteur qui suit l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est cette Mishnah que nous avons dit plus haut, Vehacha Trestame, alors que nous avons deux Mishnayot sans auteur qui suivent l'opinion de Rabbi Meir. En effet, la Mishnah que nous avons vue plus haut concernant la production de la quatrième année a été répétée à deux reprises, une fois dans Maaser Sheni Pereke et une autre fois dans Eduyot Perek Dalet. C'est pour cela que la halakha a été fixée comme Rabbi Meir concernant le Maaser Sheni. La Gemara demande Vei Stama Davka. Et si nous disons que chaque fois où la Mishnah est enseignée sans auteur, c'est une preuve que la halakha est comme cette Mishnah, Malichad Stama, Malitrestame, quelle différence y a-t-il si nous n'avons qu'une seule Mishnah qui a été enseignée sans auteur, ou si nous avons deux Mishnayot qui ont été enseignées sans auteur? Finalement, nous avons une contradiction concernant la halakha. La Gemara répond, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, halakha ki Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir, mais non pas parce que nous avons une Mishnah sans auteur qui suit l'opinion de Rabbi Meir, mais plutôt Hoil Vetnan Bebrirata Kevate, mais plutôt parce que nous avons une Mishnah qui a été enseignée dans la Maserhet préférée et qui suit l'opinion de Rabbi Meir. La Gemara fait allusion ici à la Maserhet Eduyot, qui est un recueil de témoignages sur beaucoup de halakhot. Ces témoignages ayant été vérifiés, en général, la halakha sera toujours fixée comme ce qui a été enseigné dans cette Maserhet Eduyot. Nous avons fini le shiur de Kiddushin Daf Nun Dalet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.